Sweet Home Chicago, voilà, c'est le début de cette deuxième heure du numéro 1128. On vient d'entendre Mr. Chang Blues Explosion Waterworld. Et on poursuit avec l'invité du jour, à savoir Joe Harpo et le groupe. Joe Calais et le groupe Joe Harpo Trio, l'album Songs from the Roots. On écoute un premier extrait qui s'appelle Uncle Red, un disque qu'on a déjà entendu dans Sweet Home Chicago et dont on va découvrir peut-être les secrets aujourd'hui. Et puis l'interview en direct juste derrière. Voici Uncle Red par Joe Harpo. Extrait de l'album Songs from the Roots avec ce titre Uncle Red. Je suis avec Joe Calais au téléphone. Bonjour Joe.
Bonjour Marc.
Comment ça va?
Bah ça va, merci. Merci pour ton invitation.
Mais je t'en prie. Alors, du côté de l'Ardèche, je crois, un petit point météo là sur les montagnes ardéchoises. Il neige, il fait beau. Qu'est-ce qui se passe?
Oui, on a eu quelques petits matins neigeux là. Et puis après, avec. avec une petite brise bien sympathique, hein, on ne passe pas les 5 degrés sur le matin, c'est bien.
Et voilà, et c'est là que tu vis, c'est là où le téléphone passe pas forcément très très bien, mais bon, moi j'ai l'impression quand même que tu es juste la pièce à côté. Ici c'est la Normandie, il fait toujours beau. Hein,
Ben oui.
Alors, Jo Calais, c'est ton prénom de scène. Tu fais de la musique depuis un certain temps, on va peut-être découvrir qui tu es, parce qu'il y a sûrement des auditeurs qui vont découvrir aujourd'hui ce groupe, Jo Harpo, qui n'a pas toujours existé. D'ailleurs, tu faisais partie d'un autre groupe qui s'appelait Texaco.
Voilà, on a eu pendant longtemps avec plusieurs collègues une formation plus basée sur du Chicago Blues, qu'on a débarré dans le début des années 2000.
Ouais.
Et puis, on avait pu réaliser 4 albums avec un EP aussi. On avait pas mal tourné à l'époque, et puis l'idée au fur et à mesure, mais ça on en parlera peut-être tout à l'heure si tu veux, c'est de plus en plus sur des compositions, ça s'est orienté sur un projet sous le nom de Jo Harpo.
Voilà, et ce fameux EP dont tu parles qui s'appelait justement Back to the Windy City, retour à Chicago, effectivement, Chicago qui est l'une de tes influences et celle, on l'a compris, du groupe, et là il fallait changer de nom de groupe pour changer de répertoire, c'est ça?
Ben, c'est vrai que depuis pas mal d'années, j'étais le leader du groupe, mais c'est aussi moi qui ai amené le squelette sur les compositions. J'amenais de toute façon à chaque fois toutes les lignes de chant, je m'accompagnais à la guitare, j'amenais quelques riffs d'harmonica. Le banjo est arrivé, et puis l'idée c'était de confirmer un peu ce virage qui était déjà bien implanté depuis un moment, d'être sur un style de blues beaucoup plus ouvert vers des tendances folk blues.
Voilà, parce qu'en fait,
l'occasion.
Ouais, le banjo, ça rime avec Chicago, mais pas en musique, en fait. C'est ça l'idée. Hein. C'est,
ouais.
tu, ça fait longtemps que tu pratiques le banjo. On parlera après de tes débuts, mais déjà là-dessus, parce que c'est pas un instrument très très courant, on va dire, dans le blues.
J'ai commencé là. J'ai pas vraiment de date précise parce que c'est un peu comme quand j'ai débuté l'harmonica. J'ai commencé vraiment en autodidacte et puis juste à gratouiller comme ça. Et puis quand il y avait un morceau qui commençait vraiment à pouvoir tenir, et ben je l'ai proposé aux collègues. J'avais fait pareil avec l'harmonica il y a déjà quelques années, donc je sais pas, ça fait vraiment peut-être 3-4 ans que je m'y suis penché dessus, et ça a amené d'autres arrangements, d'autres couleurs qui reflètent aussi des choses que j'écoute, parce que c'est vrai que au niveau musique, je pense que je suis plutôt assez large aussi, pareil sur ma vision du blues et des musiques noires américaines aussi. Voilà, donc c'est arrivé, si tu veux, au fur et à mesure des compositions, et c'est vrai que l'idée c'était vraiment de confirmer ce virage sur cet album où on s'est dit bon bah voilà. C'est le moment peut-être d'arrêter avec ce nom aussi de Texaco et puis de passer à quelque chose de plus personnel.
De plus personnel et de différent au niveau de la démarche, bon, artistique, on l'a compris, mais également professionnel ou pas forcément. Ça reste un groupe régional, envergure nationale.
Oui, alors on essaye tant que possible de s'exporter un peu. Alors après, c'est surtout avec cette période-là, c'est pas évident, mais c'est surtout l'organisation de chacun, parce que là, en l'occurrence, quand on a pas mal de concerts, donc on fonctionne avec deux collègues à la batterie, c'est pour ça qu'ils se partagent aussi sur l'album là.
D'accord.
David Laurent et Joël Dallavecchia, avec qui je joue depuis très longtemps. Seb Gentil qui nous a rejoint, qui est donc notre nouveau guitariste bassiste. Qui nous a rejoint un peu après la sortie de l'album là sur quelques dates déjà depuis quelques mois maintenant. Et l'idée c'est d'arriver à organiser sur les agendas de tout le monde, de pouvoir regrouper. On a pu aller aussi chez l'ami Jacques Garcia à la Maison du Blues.
Oui.
Donc on sillonne un peu. Moi quand on en parlera peut-être tout à l'heure, mais quand je pars sur les US aussi, ben je m'organise aussi un peu à chaque fois un petit périple pour pouvoir me poser dans chaque ville avec des musiciens locaux.
Ah ben très bien, mais si tu veux, on peut en parler dès maintenant, parce que ça intéresse forcément les auditeurs. Quelles sont tes influences? On va évoquer ça dans quelques minutes, mais peut-être dire pourquoi tu as franchi le pas d'aller traverser l'Atlantique. C'est pour aller voir les artistes originaux, c'est pour s'imprégner de toutes ces musiques, j'imagine.
Oui, en 2008, j'ai fait un premier voyage comme ça chez l'habitant, dans une maison de musiciens. Hein. J'ai pu être ce qu'on appelait, ce qui était bien développé à l'époque déjà, qui s'appelait le couchsurfing, le partage de canapé. Je suis tombé dans une maison sur Austin, chez un collègue Will d'ailleurs, qui est passé il y a pas très longtemps à la maison, là, parce qu'il est en Europe en ce moment.
Ouais.
Et il m'a permis de connecter très rapidement avec la scène locale. Donc on imagine, hein, sur Austin, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est pas uniquement une base de l'époque Stevie Ray, mais c'est vraiment il y a un melting pot musical hyper intéressant. Et puis j'ai pu rencontrer plein de musiciens locaux plus ou moins connus déjà à l'époque, notamment Gary Clark Jr. qui n'avait pas encore percé, mais qui sur Austin était était quand même déjà voilà, bien réputé. Avec bah,
à l'époque, oui, tu parles de 2008, il avait déjà sorti son live, je crois.
Non, il me semble pas, non. Parce qu'en tout cas, il était, voilà, il jouait encore, il passait encore sur des petits clubs, ce qui fait aussi quand il est sur Austin, hein, parce que c'est quand même quelqu'un aussi de rester vraiment très attaché à Austin, mais je crois pas, je connais pas toute sa discographie, mais en tout cas, sur Austin, c'était celui qui montait vraiment, et puis, notamment sur la scène blues, il avait déjà en notoriété dépassé aussi Double C Clark, en fait, qui est son oncle,
si je
me souviens bien, et qui jouait beaucoup sur Anton's ou le Saxon Pub pour ou qui accueillait le jam. Mais après, plein d'autres artistes, comme Birdleg aussi, qui est un harmoniciste qui m'avait fait jouer avec lui aussi, qui est un gars qui vient aussi un peu en Europe. Et puis, j'ai croisé Mike Keller aussi, qui est le guitariste après qui a bossé beaucoup avec Kim Wilson, et qui est toujours avec un très bon groupe aussi là en local. Enfin, plein de connexions comme ça pour les musiciens ou pas musiciens. D'ailleurs, quand on va aux États-Unis, il y a des rencontres qui se font très spontanément, en fait. Hein.
C'est vrai. Oui, ça, c'est vraiment l'esprit, effectivement. Je te propose, puisque en préparant cette émission, tu m'as donné un certain nombre de noms d'artistes, dont justement Monsieur Kim Wilson. Il y a pas mal d'harmonicistes parmi tes influences. C'est tout à fait normal. Joe Harpo, le nom du groupe. Kim Wilson, tout d'abord, qu'on entend dans une reprise de George Smith qui s'appelle Téléphone Blues. Qu'est-ce qu'il te fait, Kim Wilson, quand tu l'écoutes, Joe?
Bah, ça a été le gros son, la voix de Kim Wilson, parce que c'est un voilà, c'est il y a des très bons harmonicistes qui sont parfois aussi chanteurs, mais pas aussi bons chanteurs que lui. Et lui, c'est tout un ensemble. Et puis, je pense que c'est quand même quelqu'un aussi qui, à des moments, c'est écarté un peu de certaines influences, mais qui, par contre, quand il y revient, dernièrement, il a encore ressorti un album qui est fabuleux. Je pense que les collègues harmonicistes aussi, pourront pas me contredire, quoi. J'ai eu la chance de le rencontrer deux fois aussi, et ça fait partie un peu, c'est une icône, moi, je trouve. C'est vraiment une pointure, mais une grande classe, quoi. Au niveau du chant, l'armo, c'est la classe, quand même.
On écoute quelques secondes ce Téléphone Blues par Kim Wilson. On ne le dit pas assez, hein, mais c'est vrai que au sein des Fabulous Thunderbirds ou sous son propre nom, c'est vrai que c'est un fabuleux chanteur. Kim Wilson, je crois qu'il a fêté ses 70 ans cette année. Ça fait partie des références de nos jours. Tu es d'accord avec ça?
Ah oui, tout à fait, ouais. Et puis je crois qu'il a perpétré, si tu veux, quelque chose aussi qui était déjà de l'école un peu de Muddy Waters, c'est-à-dire qu'il y a énormément de musiciens qui sont passés d'abord aussi chez les T-Birds, comme Kid Ramos, que j'avais vu aussi, qui est un super gars. Le nombre de guitaristes qui sont passés chez Kim Wilson et de bons musiciens, c'est un peu comme l'école Muddy Waters, quoi. Tu as plein de très bons musiciens qui l'ont côtoyé, Junior Watson.
On va écouter d'autres artistes, notamment celui-là. Je sais pas si tu vas le reconnaître immédiatement. Tiens, voilà, petit quiz comme ça. Pas facile, hein, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui font ça.
Ouais. C'est...
Bon, on dirait bien Lester Butler, on pourrait dire Billy Boy Arnold aussi.
Ouais.
Ça fait partie des gens qui sont, on va dire maintenant, les fers de lance de tous ces styles qui ont été lancés par les pionniers. On va évoquer quelques noms de pionniers aussi au cours de cette interview, et notamment, tiens, Walter Horton. Alors, ces artistes-là qui ont forgé un petit peu ton style, on va les globaliser sous le terme de Chicago Blues. Est-ce que ce sont des gens que tu continues à écouter, Joe?
Par moments.
Ouais.
C'est vraiment, c'est des moments comme ça, mais je pense que quand on s'intéresse à plein de musique, tu sais, il y a un peu des moments dans une année comme ça, ou des périodes, et pas forcément ce qui est... Nous, on le sait, si tu veux, pour aimer le blues, mais pas forcément justement quand tu as le blues, bien au contraire. Mais tiens, qu'il y a des moments, tu te dis, tiens, j'ai envie d'écouter ça, j'ai envie d'écouter plus du West Coast, j'ai envie d'écouter du Chicago Blues. C'est par moment. Mais c'est vrai que tout à l'heure, là, tu commençais à aborder Lester Butler aussi avec les Red Devils. Là, moi, ça a été vraiment un album où je me suis rendu compte bien plus tard que je pense que c'est l'album qui a fait que j'ai voulu me mettre à l'harmonica.
L'album 13, c'est ça?
Ben non, pas l'album 13 de Lester Butler, avec le King King, le live, avec les Violet Devils.
D'accord.
Et en fait, c'est un album qui a influencé plein de monde, où énormément de grands musiciens aussi, des fois, citent cet album, quand même, hein, parce que c'était une captation live qui s'est faite comme ça, avec une histoire, et puis avec un Lester Butler qui est parti jeune aussi. Mais c'est un album comme une boule de feu, quoi. C'est vraiment quelque chose. Et ça, c'est quelque chose que j'ai. C'est un album que j'avais pris quand j'étais ado à une médiathèque, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est là où l'intérêt aussi, c'est que ça fait partie des artistes où après tu vas chercher plus loin en disant, mais tiens, oui, qu'est-ce que lui il a pu écouter et qu'est-ce qu'il a influencé lui. Et moi, ça a été mon premier souvenir, tu vois, alors que c'est pas quelque chose de traditionnel, hein. Mais ouais, cet album-là, il a une énergie. Et puis après, tout à l'heure, tu parlais de Walter Horton aussi. Ça, c'est des personnages, c'est-à-dire tout ce qu'il y avait autour, à la fois aussi de Junior Wells ou de Walter Horton, quand on sait la fin de sa vie. C'est des gens. Walter Horton qui a vraiment fini limite. Enfin, je crois que c'était dans une chambre d'hôtel, quoi. Ça a pas été la grande gloire financièrement, quoi.
Non, c'est clair.
Et pourtant, ça fait partie, nous, des grandes références quand on démarre l'armo.
Bien sûr. Ce titre, Tin Pan Alley, tu évoquais tout à l'heure en filigrane un certain Stevie Ray Vaughan. Il en a fait pas mal de versions, lui aussi. On écoute quelques secondes de cette version de Big Walter Horton, Tin Pan Alley. Avec cette espèce de tension dramatique, c'est ce genre de climat qui te touche particulièrement, ou alors, oui, ça fait partie du truc. Qu'est-ce qui se passe dans tes oreilles, dans ton cerveau, dans ton corps, quand tu écoutes ce genre de choses?
Ça, c'est, je crois que c'est comme tout un chacun quand on aime cette musique, c'est que ça nous prend, ça nous fait voyager, c'est tout un ensemble, tu vois. Parce qu'en plus, quand tu commences à écouter certains titres et que tu maîtrises pas trop l'anglais, tu fais pas tant attention au texte. Donc c'est plus une ambiance, et puis après quand tu creuses un peu plus et que tu prends les textes.
Bah oui, voilà, par exemple ce truc là qui a été enregistré 50 000 fois. Oh yeah, Little Walter, tu évoquais Muddy Waters, Little Walter qui a joué longtemps avec lui. Ce titre-là, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont oublié que c'était Little Walter, et qui a été repris par tous les apprentis bluesmen de Chicago et du monde entier. Ça fait partie de ton répertoire de base aussi, ce genre de titre?
Oui, voilà. Moi, c'est pas des choses que j'ai cherché à travailler pour faire des reprises ou des covers, si tu veux. C'est des choses l'influence du son. L'influence du son, je suis un passionné aussi de vieux amplis des années 50 et du vieux micro. Et c'est plus des combinaisons. Après, c'est pas des choses, par contre, moi je me suis jamais arrêté à essayer de trop travailler pour reprendre exactement les phrasés. Parce que je suis peut-être pas assez patient pour ça. Mais et puis c'est la simplicité, entre guillemets, hein, la simplicité aussi de la captation où ça s'est fait à ce moment-là.
C'est peut-être ça aussi qui est le plus difficile à reproduire, ou en tout cas à faire, parce que la simplicité, ça ne s'invente pas, ça fait partie de la personne, ça fait partie des conditions d'enregistrement, ça fait partie du moment.
Ouais, c'est ça. Ouais, il y avait toute cette atmosphère, et après, tant mieux si ça se perpétue. Par contre, c'est incroyable, effectivement, maintenant, le nombre de personnes qui continuent de rejouer ces titres, les travailler. Quand j'avais été sur Chicago, il y a un club qui est vraiment très sympa, qui est bien moins connu que plein d'autres, même s'il a sa réputation, c'est le Rosa's Lounge. Et puis j'avais pu assister à un anniversaire de la mort de Little Walter. Il y avait sa fille Marion Diaz qui perpétue vraiment la légende, avec Billy Branch et tout. Et on voit que même quand je suis arrivé là-bas, il y a, tu vois, le fait de traverser les mers pour venir dans un petit club, tu t'es hyper bien accueilli.
C'est clair.
Et de voir toutes ces générations, parce que t'as du Billy Boy Arnold, mais t'as du coup aussi des très très jeunes harmonicistes qui perpétuent le truc. C'est fantastique. Ouais.
Le Rosas, qui est situé dans le West Side de Chicago, c'est Melvin Taylor, je crois, qui est vraiment le pilier de ce club-là depuis des années et des années. Un club que je n'ai pas visité, je pense, où t'es peut-être trop loin du loop, ou je sais pas. Enfin, en tout cas, voilà, on en entend parler aussi. C'est pas forcément effectivement le plus connu. On écoute un extrait de la discographie de Junior Wells maintenant, avec un truc absolument mythique. Je crois que tu peux nous dire carrément de quel titre il s'agit, là. Tu connais ça par cœur, forcément. Eh oui, The Man Blues, voilà.
The Man Blues. Ah non, mais...
Alors, on parlait de simplicité, justement, quand on écoute ça.
Mm.
seem like the hours.
Voilà, c'est l'impression que ça coule tout seul. Je ne sais pas si c'est le genre de choses voilà, on en parlait à l'instant, que tu continues à écouter. Ça a plus de 50 ans, ces trucs-là. Il y a forcément des artistes qui sont passés depuis. Junior Wells, c'est un garçon que tu as vu sur scène ?
Non, malheureusement, je n'ai pas vu sur scène. Et pourtant, je sais qu'il a tourné en France. Hein, sur la fin de sa vie, je voulais dire. Et non, ça, c'est un regret. J'ai pu voir James Cotton. Mais notamment sur mes carrés belles aussi. Non. Et lui, c'était un personnage. T'as des collègues qui te racontent l'avoir vu en dehors de scène aussi, où c'était complètement Chicago, quoi. Enfin, les Chicago, tu sais, l'époque vraiment, avec ses costards, la Huggy, les bons tuyaux, hein, c'était quand même une légende aussi. C'était une légende. Mais là, tu vois, tu parlais de ce que ça évoque aussi. Dans cet extrait que tu viens de mettre, c'est vraiment la respiration aussi qu'il y a. L'espèce de silence comme ça un moment sur les phrasés au niveau du chant, parce que ça y joue beaucoup aussi sur ces harmonicistes qui sont chanteurs en parallèle. C'est les respirations qu'ils peuvent y avoir sur les phrasés, c'est intéressant.
Un autre artiste que tu m'as cité, voilà, si le truc va bien partir, ce serait pas mal qu'on puisse écouter ça. John Butler Trio, voilà, je sais pas si. Voilà, attends, je crois que le technicien est viré, définitivement. Là, on est dans quelque chose de plus contemporain.
Ouais.
Et là, peut-être que, je sais pas, on atteint plus des sonorités à la Keb Mo, à la Eric Bibb, enfin des choses plus, ou Taj Mahal, enfin quelque chose d'un petit peu plus world et d'un peu plus un peu plus frais, on va dire. On est moins blues, hein. Ça fait partie des trucs qui t'inspirent aussi pour créer ce répertoire de Joe Harpo maintenant, et notamment l'album Songs from the Roots.
Ouais, tout à fait. C'est des choses qui, moi, je suis aussi vraiment intéressé par tout ce qui est son de guitare acoustique qui sont retravaillées un petit peu, ou les guitares slide. Et puis John Butler, c'est un artiste à part à ce niveau-là. Vraiment, en termes de son, on aime ou on n'aime pas, mais il a quelque chose. Et puis dans sa formule trio avec de très très bons musiciens. Et puis lui, pour le coup aussi, avec la manière dont il a introduit un peu le banjo à son niveau, c'est quelque chose qui me plaît bien, ouais. Donc oui, voilà, c'est au sens large, on s'écarte du blues, hein, mais ouais, y a une atmosphère qui me plaît aussi.
John Butler Trio. Et puis là, avec l'extrait qu'on va découvrir, c'est plutôt folk, effectivement. Et puis c'est une reprise d'un truc qu'on a écouté maintes fois sous la houlette de Robert Plant et Jimmy Page, Gallows Paul. Willie Watson, c'est un artiste que je découvre en même temps que peut-être certains auditeurs dont tu m'as donné le nom l'autre jour en préparant cette émission-là. C'est un jeune artiste, hein.
Ouais, c'est un artiste qui doit avoir à peine 40 ans, ou début de quarantaine peut-être, et il jouait dans un groupe en fait qui avait pas mal marché aux États-Unis, qui s'appelle Old Crown Medicine Show, et il y avait des vidéos qui tournaient ça faisait penser un peu au Death South là qu'on voit souvent. Il a aussi un peu une carrière de comédien, je crois, en parallèle, et en fait après il s'est vraiment concentré tout seul sur son projet, et il a fait deux albums qui sont intéressants, de folk, volume 1 et 2. Ouais, que je conseille, parce que c'est de la prise live tout seul avec son banjo, avec sa guitare. C'est quelqu'un de très puriste en fait.
Une carrière de comédien, ça rejoint un petit peu la carrière de Keb Mo, qui avait commencé comme ça et qui a fait apprenti bluesman après, et puis maintenant il en a fait bien sûr toute sa vie. On écoute un extrait de ce Gallows Paul par Willie Watson. J'allais dire Willie Nelson bêtement, n'importe quoi. Un jeune artiste, voilà.
So wait a little while, hang back, wait a little while and see. I think I see my mother coming way across the sea.
Et puis en préparant cette émission et en réécoutant bien sûr ton album Songs from the Roots, je me suis aperçu que ton timbre de voix, alors tu vas me dire si tu es d'accord ou pas évidemment, ressemblait beaucoup à celui-là. Je crois que tout le monde connaît ça. Il s'appelle Jerry Beckley, il chantait dans le groupe américain. Et ça s'appelle Horse With No Name. Alors, on parle pas du style, là, Joe, on parle du timbre de voix. Est-ce que tu as déjà parlé de cette similitude entre le timbre que tu présentes sur les enregistrements et lui ?
Non, écoute, non, c'est peut-être sur cet album, mais non, écoute, je prends aussi.
Allez, juste pour plaisir, quelques secondes encore. Voilà, un groupe qu'on passe pas souvent dans Sweet Home Chicago, et pour cause, on est quand même un petit peu éloigné de l'idiome blues habituel. Joe Calais du groupe Joe Harpo, on va écouter un extrait dans quelques secondes, un nouvel extrait de cet album, mais peut-être parler de ce qui t'a amené jusqu'à ce projet-là. Ça fait combien d'années, depuis quand est-ce que tu fais de la musique, que ce soit en amateur ou tout simplement en débutant? Comment est-ce que tu t'y es mis et pourquoi?
De mémoire, j'ai commencé vraiment à faire un tout petit peu de guitare quand je devais avoir un peu moins de 20 ans, 15-16 ans peut-être, 16 ans peut-être. Et puis au fur et à mesure, je me suis accompagné au chant, et c'est vrai que par rapport à la tessiture que j'avais, j'étais vraiment un fan du chanteur de Pearl Jam, Eddie Vedder.
Ah oui, d'accord.
Plutôt dans les basses. Après, j'ai écouté du Springsteen, et puis assez rapidement, j'évoquais les Red Devils, mais je commençais après aussi à me tourner vers des choses plus blues, musique noire américaine, quoi.
Mmh. Et donc le blues est arrivé avec des rencontres de ce côté-ci de l'Atlantique, en France, avec des musiciens que tu as côtoyés, avec qui tu as jamais.
Ouais, alors je me suis d'abord greffé avec un guitariste, parce que je me considère pas comme guitariste, je m'accompagne au niveau du chant. Et puis après, oui, avec notamment Joël, qui fait toujours partie aussi des musiciens avec qui je collabore, début des années 2000, et on a commencé à monter un groupe, et qui rapidement est devenu après Texaco.
Voilà, Texaco qu'on évoquait avec ses quatre albums. Et puis maintenant, l'actu avec Joe Harpo, ça fait quelques mois que la formation existe sous ce nom, c'est ça?
Voilà, c'est ça. On a sorti l'album là, je crois que c'était en mai, parce que un peu comme tous les collègues, on avait reporté la sortie.
Ouais.
Et un album qui avait été enregistré fin d'année précédente. Donc l'idée c'était de ce qui était dans les tuyaux depuis un moment, c'était d'arrêter avec le nom Texaco, de tout ce qu'on avait tourné pendant quelques années avec très connoté Chicago Blues, et de pas renier ça, parce que ça fait partie des influences, et puis on continue à faire des clins d'œil ou à jouer des titres ou certains covers sur les concerts. Mmh. Mais l'idée c'était vraiment d'appuyer ce nouveau projet. Et tant qu'à changer de nom, en fait, c'est un pseudo moi que j'avais aussi depuis quelques temps, Joe Harpo. Et vu que c'est toutes mes compositions, on a confirmé ce nom-là.
Et donc là, c'est Joe Harpo en un seul mot, c'est pas le nom d'un musicien, même si ça peut être ton sobriquet également. Et il y a un petit clin d'œil avec le titre qu'on va écouter. Il y a un très beau clip qui a été réalisé d'ailleurs à ce propos-là, qui s'appelle Arizona, où là, on est dans le monde amérindien, c'est ça?
Ouais, c'est un morceau, en fait, c'est un texte que j'avais écrit quand j'étais parti sur Phoenix. Parce que j'étais allé en Arizona, j'étais allé forcément dans un super club, le club de Bob Corritor,
oui.
Le River Moon, où il y a d'ailleurs un très bon disque de Kim Wilson en live, mais pas que.
Ouais.
Et puis en fait, j'avais écrit ce texte là-bas, parce que Phoenix, c'est vraiment une ville particulière, quand même, j'ai trouvé. Et voilà, il est resté un peu dans les cartons, et puis après, au moment d'écrire le nouvel album, on a fait ce titre-là, ouais.
Est-ce que tu as pu discuter avec Bob Corritor? Est-ce qu'il t'a donné des conseils? Est-ce que vous avez échangé un petit peu?
Et en fait, les agendas se sont mal croisés parce qu'il était sur Memphis à ce moment-là.
D'accord, il était sur la route, ouais.
Ouais, donc je suis quand même allé sur la soirée là-bas, et du coup, on a échangé par message, mais on n'a pas pu se voir. Et voilà, de toute façon, si je retourne sur cette ville, c'est vraiment uniquement pour le club, parce que voilà, j'ai pas trouvé que c'était la meilleure ville.
Pour le blues, ouais, forcément.
Ouais. Non, mais puis même dans l'ambiance, c'était pas extraordinaire. C'est autour, c'est extraordinaire, Arizona, mais justement, le texte parle un peu de ça, quoi.
Ouais. On va écouter ce titre-là, Arizona, par Joe Harpo. On se retrouve juste derrière.
From a coffee shop, no cue. For his crown, roll ever after, a certain sun will soon. Phoenix make me more certain. My curves and my.
Extrait de l'album Songs from the Roots avec ce titre Arizona que tu as écrit là-bas, Joe, c'est ce que tu évoquais il y a quelques minutes. On est en direct sur le 666 avec Joe Calais qui fait office de leader, on va dire, à ce groupe, Joe Harpo, qui est né il y a quelques mois. L'album Songs from the Roots, il contient 13 titres. C'était une obligation de sortir un album complet ou est-ce que faire un EP, par exemple, juste avant, ça aurait été possible?
Oui, ça aurait été possible. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait on avait assez de titres. Il y a un seul titre qu'on a fait le choix de pas le mettre sur toutes les prises de studio. Effectivement, s'il y avait uniquement 7 titres qui pour nous convenaient, on aurait très bien pu sortir uniquement. On n'avait pas de pression à ce niveau-là. On était auto-entrepreneurs.
Tout comme le dernier album de Texaco, en fait, qui est un EP également.
Voilà, c'était ça. Bon. C'était ce qui s'était passé, ouais.
Alors, on évoquait tout à l'heure hors antenne le travail un petit peu de ces bluesmen américains, comme ça, qui vont d'une ville à l'autre, et puis qui parfois jouent tout seuls. Alors, on peut parler de ce côté-là de l'Atlantique, de Rémi Bricard, qui n'est pas du tout un bluesman, mais également Philippe Ménard, que tu connais de réputation, au moins.
Oui, je connais grâce à un ami avec qui je joue aussi dans une autre formation, avec Yannick Dorel, alias Captain Shuffle, qui a côtoyé plusieurs fois Philippe. Moi je trouve que voilà, c'est pour moi ça fait encore un écho à une vraie histoire aussi du blues et quand on est sur des concerts où il n'y a pas forcément un public qui a un minimum cette culture du blues, c'est important de le rappeler. Que les hommes orchestres comme ça aussi qui se sont déplacés et qui jouaient dans les Duke Jones, contre gîte et couvert. Dans certaines parties des États-Unis, comme tu disais tout à l'heure en off, sinon le ménestrel, quoi.
Oui.
C'est important. Ça, alors, ça prête à sourire aussi un Rémi Bricard, mais il y a quand même une partie aussi technique. Et moi, je fais toujours le parallèle parce que ça, en culture populaire, ça parle aux gens. Donc, j'ai un petit 45 tours avec moi des fois que je sors de Rémi Bricard. Et puis, Rémi Bricard, j'aime bien le rappeler. Je lui ai fait un petit message un jour pour lui dire que je parlais souvent de lui, mais j'ai aucun lien de parenté. Mais j'aime bien rappeler que c'est tellement quelqu'un d'atypique. Qu'il a quand même traversé l'Atlantique à la rame deux fois aussi.
Oui, donc, je me souviens de ça, effectivement.
Donc c'est quand même, je pense que c'est un personnage, et puis ça a marqué les gens. Voilà, il y a peut-être un côté blues, et peut-être il faudra lui poser la question un jour, peut-être qu'il a écouté beaucoup de blues. Hein.
Tu penses que les gens, quand ils vont venir vous voir, par exemple, ils ont besoin de références, ils ont besoin de temps en temps d'un petit Manish Boy ou d'un petit My Babe pour se rappeler ce que c'est qu'un vrai Chicago blues. Ils ont besoin aussi qu'on leur parle entre les morceaux, qu'on leur explique ce qui se fait, ce qui se joue.
Oui, moi les retours que j'en ai, c'est ça. Je pense que même les autres collègues musiciens... ils te diront peut-être comme moi, c'est-à-dire qu'effectivement, surtout qu'on est sur des textes où les personnes ne comprennent pas forcément le texte en anglais. Et donc, moi, j'aime faire une introduction à chaque fois, un petit peu comme ça, notamment sur, en Faith Strip Brother, où j'aime parler de Little Walter, parce que de dire que ça fait partie des grandes références et de tout ce que c'est des artistes qui ont fait rentrer aussi la musique noire dans les foyers à une époque où c'était bien plus compliqué, quoi, hein. Bien plus compliqué, voire interdit. Et du coup, c'est hyper intéressant. Et dans la proximité que tu as dans les petites salles ou les cafés-concerts, c'est de prendre le temps et de... Alors pour mes collègues, c'est toujours, raconte presque toujours les mêmes histoires, mais en tout cas, le retour qu'on en a, c'est que oui, ils aiment bien savoir un peu... Ça les met dans l'ambiance. Et puis c'est tellement la base de plein de musique que les gens ont écouté après par la suite, que c'est intéressant. Moi j'aime aussi parler de Muddy Waters, de dire tout simplement que Muddy Waters c'est quand même Rolling Stone, et du coup il y a un lien avec quelque chose que vous connaissez de plus facilement. C'est quand même la boucle était bouclée, quoi. De dire aussi qu'après c'est des artistes qui sont venus faire les premières parties des Stones. Donc tant mieux pour eux, mais voilà, Buddy Guy, Junior Wells, mais Muddy Waters, ouais, j'aime bien aussi parler de Muddy Waters, parce que quand même c'est, voilà, l'orchestre, la famille, avec le nombre d'artistes qui sont sortis aussi de cette école, parce que le riff par exemple aussi, comme tu dis, le Manish Boy, c'est des choses aussi que tout de suite, dès que tu le joues, ça parle aux gens, et voilà, pourtant les gens vont te dire, j'aime pas le blues, ou je pensais pas que j'aurais apprécié, et puis j'ai bien aimé ce que vous avez fait. Ça, c'est pas mal, quoi.
J'aime pas le blues, mais ce que vous faites, ça me branche bien. C'est vrai que ça revient souvent, ça, parmi les auditeurs, les gens qui sont pas au fait du blues. Tiens, on en parlait, Manish Boy.
Oh yeah.
Allez, on est sur une version qui a une petite quarantaine d'années. C'était produit par Johnny Winter. Je crois qu'on est en 1977 pour cet album Hard Again. Mais c'est un morceau qui jouait depuis les années 40. Allez, pour plaisir, Joe, on s'en fait quelques secondes.
Ah ouais.
Voilà, n'attendez pas un turnaround, il y a juste un accord. Et le mec qui fait yeah derrière, je crois bien que c'est Johnny Winter. Est-ce que c'est un album que tu possèdes? On parle de ce disque-là en particulier, puisque voilà, tu évoquais Muddy Waters. Ça fait partie des incontournables pour toi ou pas forcément?
Oui, c'est des choses que j'ai en CD à l'époque. J'ai pas arrêté, j'ai commencé par tous les graver quand je pouvais les récupérer à la médiathèque, et puis après je me les suis tous achetés. ça fait comme toutes les références d'harmonicistes du Chicago Blues. Et puis tout à l'heure on évoquait, après tu viens piocher par moment, tu dis tiens allez je vais réécouter. Mais c'est là aussi, c'est comme les Johnny Hooker, c'est-à-dire que tu évoquais le nombre d'accords ou des choses comme ça, et les respirations, là, entre guillemets, la simplicité, mais je dis bien entre guillemets, hein, ou sur du R.L. Burnside, où mon collègue Yannick Dorel, avec qui joue Captain Shuffle, en parlera bien mieux que moi, parce qu'il arrive très très bien à le faire et à le jouer. C'est une musique qui va pas s'apprendre comme ça sur des tablatures ou sur des choses. Il y a quelque chose qui se vit complètement avoir ce son direct de puriste. Je pense qu'il faut vraiment d'abord beaucoup l'aimer, cette musique, pour arriver à la jouer.
Très très juste ce que tu viens de dire. Jo Calé en direct dans le 666 avec j'ai sous les yeux cette liste très courte de noms d'artistes qui t'accompagnent. Joël Dallavecchia à la batterie, et puis Sébastien Gentil guitare et basse, qui sont pas forcément exactement ceux qui figurent sur l'album. Comment est-ce qu'on fait pour Sébastien pour jouer de la guitare et de la basse? Est-ce qu'il faut choisir à quel moment on intervient sur tel ou tel instrument? C'est plus facile en enregistrement, bien sûr, sur le studio, mais pour le live, comment ça se passe? On n'entend pas beaucoup de basse dans vos vidéos.
Non, ouais. Alors là, on prépare de nouvelles captations, là, de nouvelles choses avec lui, parce que le répertoire s'est encore électrifié aussi, parce que l'album, ouais, il est très guitare acoustique. Donc il amène encore une autre couleur. On était encore hier soir en concert ensemble. On alterne suivant un peu les titres aussi, où c'est des compromis entre est-ce que ça va être de la basse quand je suis au banjo particulièrement, ou de la basse quand je suis à la guitare, moi, à la guitare acoustique. Par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est jouer en trio. On a aussi beaucoup joué en quartet, hein, dans Texaco, avec différents bassistes. Et puis, on avait des dates qui se proposaient quelquefois en trio. Et à un moment, voilà, on a fait le choix de tourner en formule trio. Et je suis assez attaché à cette formule. Dans une autre formation avec laquelle je joue, donc avec Captain Shuffles, on joue ensemble dans un groupe qui s'appelle Boogie Ramblers.
Ouais.
Et là, c'est pareil, on n'a pas de batteur. On est vraiment juste contrebasse, chant guitare pour Yannick. Et moi, je fais juste harmonica et banjo.
Et là, pendant que tu parles, on entend un truc qui va forcément parler aux auditeurs. Voilà, on se souvient de Creedence Clearwater Revival, on se souvient de Ike et Tina Turner. Ça, c'est la version Texaco de Proud Mary. Hein.
Ouais.
Ça, c'est forcément quelque chose qui parle aux gens. Enfin, on a pu l'entendre plein de fois par tout plein d'artistes. Encore une fois, voilà, il faut remplacer par quelques classiques, forcément, ou est-ce qu'on ne peut pas imaginer un jour un album entièrement fait avec des compositions? Est-ce que c'est le cas avec Joe Harpo? Est-ce que c'est plus facile avec cette formation?
Ouais, moi j'aime bien faire des clins d'œil en fait sur on est tellement libre du coup sur les concerts, c'est ça qui est bien aussi.
Bien sûr.
Du coup quand dans le répertoire on a envie de faire un petit Chicago blues, on en place un. Ça m'arrive de rejouer encore ce titre aussi sur la cette liste.
Ouais.
Et oui, l'album c'était aussi ça, c'était de dire encore hier avec des gens qui sont venus au concert, c'est de dire la grosse différence, c'est qu'il y a que des compos sur le nouvel album. Mais on fait un clin d'œil à Bill Weavers aussi avec No Sunshine à un moment, d'une version qu'on a un peu réadaptée à notre sauce avec de l'harmonica, alors que normalement il n'y a pas d'harmo dans ce morceau. C'est des choses du moment aussi.
No Sunshine, il y a une version blues très célèbre qui est absolument fantastique, celle de Freddie King par exemple.
Hein. Ouais. Hein. Mais ça c'est un morceau qui parle aux gens, tu vois, donc tu vas un peu les chercher, mais c'est pas indispensable. On se force pas à le faire.
Voilà, d'accord.
Des choses, ouais. C'est des, tu te dis tiens, j'ai envie de reprendre ce titre. Et puis moi je considère, j'ai pas envie de passer sur une reprise, de passer beaucoup de temps plus en tout cas que sur une compo. Donc l'idée c'est que...
Pour la mise en place tu veux dire.
Pour la mise en place, voilà. Il faut que ça soit spontané, que la couleur plaise à tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut être leader parce qu'il faut un leader dans une formation. Et là, jouer Harpo, c'est vraiment ça. C'est aussi encore... Je me considère pas comme un batteur et encore moins non plus bassiste et guitariste. Et du coup, c'est un travail en trio moi que j'aime bien. Un travail de création après comme ça...
Et voilà, et c'est donc ce que ça donne, ce 13 titres qui s'appelle Songs from the Roots de Joe Harpo, avec des nouveaux morceaux maintenant qui sont en train de tourner en répétition, on l'imagine bien. C'est chez Nitro Blues Productions, c'est une autoproduction ça, Joe, hein.
Ouais, c'est quelque chose qu'on avait monté déjà depuis quelques temps. Ouais.
Est-ce qu'on peut parler rapidement de la pochette? Alors, on voit vos instruments de musique qui trônent en plein milieu, mais surtout à l'arrière, cette influence, une vieille américaine, je ne sais pas quel modèle, les années 60 à peu près, devant un garage. C'est votre univers, ça?
Ça, c'est une photo que j'ai prise à Austin,
ouais,
à côté de chez mon collègue, là. Donc, il était content de voir, en plus, parce que c'est son garage.
Garage.
Voilà. Non, ça a été un montage, un choix de photo comme ça, parce que, ouais, j'aime bien capter les images aussi. J'aime bien collaborer aussi avec les photographes. Là. Je trouve que ça reflète aussi, pour poser des moments comme ça, c'est peut-être un côté blues aussi.
Un côté blues accentué aussi par l'utilisation du sépia, hein, pour
ouais, les photos. Ouais. Et ouais, on était plus sur une couleur bleue parce que sur l'album Back to Windy City, il y a un escalier pareil qui faisait penser à Chicago, alors qu'en fait c'était un escalier dans la Drôme qu'on avait pris en photo, un escalier d'usine. Et puis après, pour pour ceux qui ont eu la chance d'aller aux US, hein, il y avait plein d'endroits où tu as envie de sortir ton appareil photo, hein, parce que c'est tellement... ça fait partie un peu du voyage, quoi.
Une dernière question, Joe, quels sont les projets du groupe? Un nouvel album, des dates, des voyages? Qu'est-ce qui va se passer en 2022 pour Joe Harpo?
Alors, des dates, ouais, on a des, comme un peu comme tous les collègues, on a eu la chance de beaucoup jouer pendant les périodes de déconfinement. On a encore des dates. Alors, on a une date qui s'est encore reportée, là, qui était prévu pour la semaine prochaine. On joue encore au moins une fois la semaine prochaine pour terminer l'année. On a des dates de 2022 qui arrivent et puis des choses qui se profilent, ouais, sur des festivals là, qui nous contactent ou pour lesquels on attend des confirmations. Et on devrait aussi refaire des captations vidéo qu'on mettra en ligne avec justement le nouveau collègue Seb Gentil qui nous a rejoint pour les nouveaux arrangements. Et puis oui, je repars aux États-Unis normalement parce que ça commence à manquer un petit peu. C'est quelque chose où j'essaie d'y aller grand maximum tous les deux ans, mais là c'était un peu compliqué. Donc depuis 2019, je suis pas retourné. Donc je vais sur Chicago fin avril.
D'accord.
Début avril, normalement c'est début avril sur Chicago. Ensuite un projet peut-être de passer par la Louisiane et en tout cas pour rester aussi sur Austin parce que voilà. Donc à organiser à chaque fois aussi avec des musiciens locaux pour pouvoir me greffer. Voilà.
Très bien, ça ce sont les projets de Joueurs Pro. On va te suivre ici avec toute l'équipe de Sweet Home Chicago qui est composée d'une personne. En tout cas, voilà, je vais te suivre avec grand plaisir en espérant pour 2022 te voir sur la route du blues. Sait-on jamais, même si dans les montagnes ardéchoises, c'est très très loin. Enfin bon, voilà, je pense que la route du blues peut mener à tout.
Ah ouais, avec plaisir.
Très bien, on écoute un nouvel extrait de cet album et puis je te remercie encore pour cette interview en direct sur le 666. À bientôt, Joe.
Merci à toi. Merci beaucoup, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir. '63, 4 years.
entendre un nouvel extrait de l'album de Joe Harpo, Songs from the Roots, avec Blue Boar, un morceau qu'on a déjà entendu également dans l'émission de Dan Zerotti. Moonshine Blues, voilà, encore merci à Joe Calais, authenticité, simplicité, générosité, gentillesse et pédagogie dans le blues, on a besoin d'artistes comme lui. On poursuit avec la rubrique des années 50, non, pas du tout, 50 Years After, il y a 50 ans, nous étions en 1971, vous le savez, depuis le début de cette année, peut-être 28 ou 29 fois, j'ai l'occasion de revenir sur les meilleurs albums de 1971, ceci étant tout à fait subjectif bien sûr. Et là, pour aujourd'hui, j'ai choisi ce titre Muswell Hill City d'un groupe mythique qui s'appelle The Kinks. On écoute ça.
Miss her bloodshot alcohol.
Les Kinks, on était en 1971, 50 Years After. Vous continuez à réfléchir hein, sur le Facebook Sweet Home Chicago pour savoir comment alimenter la rubrique l'année prochaine, puisque 50 Years After, ce sera les meilleurs albums de 1972. Alors je compte sur votre participation à tous, bien sûr. Vous avez rendez-vous également sur le site de l'émission blues.radio666.com pour gagner toutes sortes de choses. En ce moment, il y a des disques, notamment le dernier album de Martha Fields qui s'appelle Headed South, ou l'album de Gallia Volt, One Woman Band. Et puis nous, on va se quitter avec Mr. Chung, Blues Explosion, l'album Time to Move. Nouvel extrait, Oh My Love. On se retrouve la semaine prochaine. Salut, bye bye.
There can be no victory, but oh my love, won't you give me one more try? I know I did you wrong, but we used to get along, just one more try. The beauty and the strength of what we're fighting for is relying on each other until the war. But I know we're strong enough to get by all of this stuff. Oh, my love, won't you give me one more?